Kompass bringt fremde Kulturen ins Rübliland. Kompass, jetzt auf Kanal K.
Fenêtre sur l'Afrique, avec Sylvain Amos et son équipe, Romain Koudjodi, Lucien Roncalli, Fabi Kouassi, Josué Maoli et Esteban Gagno. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K.
Guten Abend, meine Damen und Herren, Sie sind live in der ersten Teil der Sendung Fenêtre sur l'Afrique, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. In diesem ersten Teil werden wir mit unserem Gast über die aktuelle politische Krise in Kongo sprechen. Am Mikrofon begleitet euch Sylvain Amos. Viel Vergnügen auf Radio Canal K. Amis du bout des ondes, chers amis panafricanistes, ravis de vous savoir nombreux à l'écoute de Fenêtre sur l'Afrique, un programme panafricain de Radio Canal K basé en Suisse alémanique. Et bien ce soir, notre rédaction s'intéresse à la situation politique de la RDC, République démocratique du Congo, un pays de l'Afrique centrale qui est le théâtre d'une des plus grandes crises politiques et humanitaires au monde. Et depuis la réélection du président Joseph Kabila en novembre 2011 dernier, le pays vit une insécurité grandissante. Les femmes congolaises sont quotidiennement violées par des groupes armés. Pour aborder les grands sujets sur la crise politique et l'insécurité en RDC, nous accueillons dans un moment un journaliste panafricain congolais. Merci également à Lavra, la voix de la résistance africaine basée en Allemagne, pour la rediffusion de cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Et merci de votre fidélité. Dans un instant, notre éditorial. L'envoyé spécial de l'ONU pour les violences faites aux femmes et aux enfants dans les conflits, Margot Wallström a qualifié la RDC de capitale mondiale du viol et appelé le Conseil de sécurité à agir pour mettre un terme à ces violences. C'était il y a quelques semaines. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, HCR, a indiqué il y a quelques jours également qu'au premier trimestre, 1244 femmes avaient rapporté à l'ONU avoir été violées, soit près de 14 viols par jour en moyenne, et à peu près autant que pendant la même période en 2009. Plus d'un tiers des viols enregistrés ont eu lieu dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu en République démocratique du Congo. Même les camps de fortune du HCR ne garantissent plus la sécurité de ces femmes. Amis auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, posons-nous une seule question. Où sont les organisations de protection des droits de l'homme? L'ONU, l'OUA, l'OMS, pour ne citer que cela. Africains que nous sommes, nous avons le cœur meurtri et brisé devant cette ignominie et dire qu'au moment où nos mamans, nos sœurs et femmes sont violées en RDC, les ressources minières de ce beau pays sont pillées en catastrophe. Il y a lieu que tout Africain puisse réfléchir dans son coin, à sa façon, pour venir à l'aide à ces femmes laissées pour compte. Peuple africain, unissons-nous et organisons-nous. Les prédateurs du continent sont et toujours à nos portes. Merci de votre fidélité dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K. Soldat, ne me tue pas, soldat, ne m'abat pas. Je sais que tu as un cœur, je sais que tu fais ton boulot. Mais avant de m'abattre, regarde-moi encore une fois, chanté par le chanteur togolais Jade Fosiz qui évolue actuellement en Allemagne. Mais malheureusement, en République démocratique du Congo, au Togo et un peu partout dans beaucoup de pays africains, les femmes sont violées. La violence, la violence, la violence. Le 28 novembre 2011, les Congolais avaient élu leur président dans un climat contestataire. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, organe chargé de l'organisation des présidentielles et législatives, avait enregistré au total 18 000 candidats pour 500 postes de députés et 11 candidats étaient dans les courses pour les présidentielles. Beaucoup d'observateurs avaient condamné à l'époque la violence potentielle qu'avaient généré ces élections en novembre 2011 en RDC. Mais pour comprendre les enjeux des élections en RDC, il faut également remonter aux élections générales de 2006 qui clôturaient une transition faisant suite à un accord de paix et de partage de pouvoir entre rebelles et acteurs politiques. Au moins 27 groupes armés sont actifs au nord Kivu en RDC. Un ministre du gouvernement actuel a indiqué que l'activisme de ces groupes armés empêche même les autorités du Nord Kivu d'avoir le contrôle sur plusieurs secteurs du territoire, ce qui expliquerait peut-être les viols constants des femmes congolaises dans cette région. Alors comment se porte aujourd'hui la RDC après la réélection du président Joseph Kabila en novembre 2011 dernier? Eh bien, pour aborder des questions sur la sécurité, les droits de l'homme et les enjeux sur les prochaines élections en RDC, nous accueillons dans un instant, depuis Paris, un panafricaniste congolais.
C'est
fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Eh bien, merci de votre fidélité sur Radio Canal K dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Bien évidemment, nous sommes la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Et pour discuter sur la politique ou sur la crise que vit actuellement la République démocratique du Congo, tout de suite en ligne, en direct depuis Paris, Joseph Opouloulou, journaliste à Radio Manguigbo FM, il est également panafricaniste. Joseph Opouloulou, bonsoir. Allô, Joseph Opouloulou. Ah là là, nous l'avons manqué. On va essayer de le relancer encore une fois.
Que tu embrasses le Libéria que tu as détruit, la Yougoslavie qui a péri, l'Angola qui se
cherche.
Bien, j'espère que Joseph Opouloulou est déjà en ligne depuis Paris. Bonsoir, Joseph Opouloulou.
Bonsoir, Sylvain. Bonsoir à tous les
autres. Merci beaucoup, Joseph Opouloulou, de nous accompagner en direct depuis Paris. Comment tu vas, Joseph Opouloulou?
Ben, ça va. Nous, ici en France, nous sommes en train de profiter du grand pont qui nous a été offert avec ces deux jours fériés qui se suivent et puis on a pris le vendredi avec.
Justement, merci de discuter avec nous de la crise au Congo. On entame tout de suite les questions sur la sécurité en République démocratique du Congo, votre pays. Au moins 27 groupes armés sont actifs au nord du Kivu où règne une insécurité grandissante, surtout avec les viols au quotidien des femmes congolaises. Alors, des ONG dénoncent et assistent également ces femmes violées, mais le phénomène perdure toujours. Joseph Opouloulou, comment mettre fin à ces exactions au Nord Kivu?
La première chose, d'abord, vous l'avez dit, le nombre pléthorique des rébellions qui naissent presque chaque jour fait que c'est pas évident de mettre en place une sécurité, une vraie sécurité, autant pour les civils que pour toute la population. N'oubliez pas que près de 20 000 soldats des forces de l'ONU sont sur place et en tout cas leur mission est justement d'assurer la sécurité à la population civile. Or justement si ces 20 000 soldats des Nations Unies n'y arrivent pas, comment peut faire un pays qui n'a pas su, en tout cas en ces 10 dernières années, se bâtir une vraie armée républicaine? Ça c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que quand on prend un soldat, il faut lui assurer à la fois la solde, mais aussi une vraie formation. Or, ces deux éléments que je viens d'évoquer manquent cruellement à l'armée congolaise. Vous l'avez vu, les derniers rapports montrent que parmi ceux qui violent les populations civiles, on se trouve aussi bien des soldats de l'armée régulière que ceux de la rébellion. Et dans beaucoup de cas, les deux proviennent parfois des mêmes sources. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, pour mettre un terme d'abord à ces viols répétés, il faut commencer par mettre un terme à ces rébellions qui ne se justifient plus en tout cas dans le contexte actuel de la République démocratique du Congo.
Justement, Joseph Opouloulou, je le disais, vous êtes journaliste panafricaniste et j'espère que vous animez également une émission à Radio Manguebo FM basée à Paris en France. Le 3 mai dernier était la journée mondiale de la liberté de presse. Alors selon le dernier rapport annuel de l'ONG Journalistes en danger, la RDC n'a jamais connu autant de violations de liberté de presse depuis les premières élections de 2006. Alors, seul point positif, l'absence d'assassinats des journalistes en 2012. Et pourtant, le pouvoir de Joseph Kabila estime qu'il a eu une liberté d'expression en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous dites là, Joseph Opouloulou?
Ben, écoute, écoutez, c'est un peu relatif dans la mesure où aujourd'hui, pratiquement tous les grands médias, chaînes de radio et de télévision sont entre les mains des politiques. C'est-à-dire qu'il faut être politique pour pouvoir disposer d'une chaîne. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les chaînes dites de l'opposition sont pratiquement fermées. Donc, c'est un peu une caisse de résonance que l'on a en face. Et souvent, pour quelques journalistes qui essaient de centrer des dossiers, vous l'avez suivi récemment, eh bien, on se retrouve tout de suite pris entre les filets de la police. Donc, je pense que c'est une vue de l'esprit pour les autorités congolaises de continuer à soutenir qu'il y ait une liberté de la presse. C'est vrai, les associations, les journalistes, en danger, par exemple, qui se battent pied à pied au quotidien pour que les journalistes puissent faire leur travail. Mais très souvent, il y a à côté un organe qui, entre guillemets, contrôle tout ce monde-là et qui peut à tout moment frapper notamment les journalistes ou les organes de presse dites proches de l'opposition. Donc voilà, c'est la vraie question en République démocratique du Congo. Il n'y a pas d'espace d'expression de l'opposition et le peu qui existe est chaque jour grignoté. Dernièrement, plusieurs chaînes de télé et de radio ont été fermées et quand on rentre, on gratte un peu, on trouve que pratiquement tous sont dites de l'opposition. Voilà un peu la situation. On étrangle la presse qui ne relaie pas le discours du président ou le discours de la majorité présidentielle. Et il se trouve que justement, le journaliste au Congo ne peut pas travailler dans la sérénité.
Joseph Polulu, revenons même sur la crise en RDC, liée quand même à cette contestation de l'élection de Joseph Kabila en 2011, mais quand même l'opposition qui continue de contester sa victoire. Mais on dirait aussi que cette opposition a été aussi également mal organisée, car étant désunie contre Joseph Kabila. Alors comment expliquez-vous cette discordance au sein même de l'opposition congolaise?
Je pense que l'opposition congolaise a du mal à se renouveler. Le problème, nous sommes ici en face des pères dits fondateurs de l'opposition qui estiment que tout doit passer par eux. Et de l'autre côté, on a une nouvelle génération d'acteurs politiques qui veut changer les choses. Et au milieu, il n'y a rien. Rappelez-vous, avant les dernières élections, il fallait que l'opposition présente un candidat unique, mais aucun contact préalable n'a pu aboutir. Donc le problème de l'opposition congolaise aujourd'hui, c'est personne ne veut donner l'impression de céder à l'autre. Et chacun se bat pour dire « c'est mon tour » et ce n'est pas jamais le tour du pays. Donc c'est ça la grande question. Donc l'opposition congolaise, tant qu'elle va pas se dépasser, tant que ses leaders ne vont pas penser à eux, tant que c'est une opposition qui ne va pas faire la politique du ventre, eh bien, on pourra attendre longtemps pour voir les choses changer. Mais moi, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs voyages au Congo Kinshasa. Il y a quand même des voix fortes qui s'expriment, mais ces voix ne sont pas portées par les médias, d'où les quelques rencontres que peuvent promouvoir les leaders de l'opposition aussi, là encore, tombent sous le coup d'interdiction, de manifestations ou pour de dangers, dites entre guillemets, de dangers, de perturbation de la paix civile. Vous voyez, donc, toutes les raisons sont bonnes pour, d'une part, ne pas permettre à cette opposition de s'organiser et d'autre part aussi, surtout, de pouvoir s'adresser à la population.
Justement, Joseph Polulu, là, vous venez de soulever quelques dysfonctionnements au sein de l'opposition liés également au leadership, il s'agit de l'opposition congolaise. Est-ce que vous pensez qu'il y aura quand même une alternance pacifique en République démocratique du Congo? On note quand même, dans le Nord Kivu seul, 27 groupes armés, Joseph Polulu.
La question de l'alternance politique au Congo Kinshasa est possible, mais il faut que le premier des acteurs politiques de ce pays puisse lancer des initiatives. Nous voyons aussi en Occident, on voit comment les initiatives sont prises pour amener la classe politique à s'asseoir autour de la table. Le président Joseph Kabila a proposé en décembre dernier, le 15 décembre, une rencontre. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de cohésion nationale. Et depuis 6 mois bientôt, eh bien, un impossible de tenir une réunion. Vous comprenez? C'est-à-dire que le cadre doit s'organiser pour aller vers l'alternance. Et parmi ces cadres, la première chose, ça doit être un cadre de conservation d'un côté et de l'autre, un cadre juridique, politico-juridique, constitutionnel, la CENI, la CENI, ou la Commission électorale nationale indépendante. Ces deux éléments, donc une concertation en amont et de côté un instrument constitutionnel, ce sont les deux grands pour arriver à une alternance. Mais aujourd'hui, c'est vrai, les signaux qui sont lancés de part et d'autre ne nous donnent pas une certaine confiance pour cette alternance, mais elle est possible.
Justement, l'alternance pacifique et politique est possible à la République démocratique du Congo. On le souhaite, tout le peuple africain le souhaite également. Alors, on disait, un journaliste congolais qualifie de voyou six personnalités bien connues du peuple congolais, dont la plupart sont considérées comme des chefs rebelles. Le journaliste a nommément cité, entre autres, Roger Lumbala, Tintenga, Bosco Ntaganda, et Antipas Mbuza Nyimwizi et Rumziza alias Sultani Makenga, Laurent Kunda, Jean-Pierre et Jean-Marie Runiga. Alors, pour nos auditeurs, Joseph Pouloulou, pour nos auditeurs qui sont des panafricanistes également comme vous, dites-nous en quoi ces personnes que je viens de citer sont considérées comme de voyous.
Mais parce que tout simplement, ces personnes, depuis une dizaine d'années, trouvent tous les prétextes du monde pour jouer au pyromane. Je prends l'exemple de Roger Lumbala, élu député à deux reprises, donc en 2006 et en 2011. Mais Roger Lumbala, aujourd'hui, s'est accoquiné avec les membres du M23 pour aujourd'hui essayer de casser une dynamique qui commence à se mettre en place. Si on les qualifie de voyous, c'est parce que tout simplement, ils sont capables justement de participer à une concertation sereine. Vous vous rendez compte, c'est depuis le mois de novembre que toutes ces personnes que vous venez de citer sont à Kampala pour discuter avec le gouvernement congolais pour dégager les lignes de force pour régler par le dialogue le conflit soulevé par le mouvement M23. Et vous vous rendez compte que tous ces mondes, tout ce qu'ils veulent, c'est s'offrir une sorte d'état dans l'état pour continuer leur prédation, parce que leur vrai combat, c'est qu'ils se sont installés là où il y a des minéraux. Et moi, je pense qu'ils ne se battent nullement pour la démocratie, et encore moins pour la population, sinon, en tout cas, pour garder la main, vraiment la main, sur certaines richesses minières qu'ils peuvent vendre en transitant par les pays voisins de l'Est de la RDC. Donc moi, je pense que toutes ces personnes qui aujourd'hui trouvent quand même des micros pour dire ce qu'ils ont à dire, ces personnes ne sont que des voyous, et vraiment des voyous en cravate. Et je pense qu'il serait temps qu'on en finisse.
Justement, là, vous donnez effectivement raison aux confrères congolais qui a quand même également qualifié ces six personnes que je viens de citer comme des voyous. Alors quand même, parmi ces personnes que je viens de citer, il est quand même important de relever et que l'un d'entre eux, Bosco Ntaganda, a été entendu par la Cour pénale internationale le 26 mars dernier à La Haye. Alors pourquoi une telle reddition selon vous? Le milicien du M23, je parle de Bosco Ntaganda, a-t-il été là par le Rwanda? A-t-il promis à Kigali de dédouaner le Rwanda de son implication dans les violences en RDC? Alors, beaucoup d'interrogations se posent autour de la reddition de Bosco Ntaganda, Joseph Pouloulou.
Oui, d'abord, il faudrait que nos auditeurs, ceux qui s'intéressent à la politique africaine, comprennent que au sein du M23, il y a cette histoire de poupée russe. Vous savez, les poupées russes, vous en enlevez un, il y a un autre qui ressort. Si vous remontez jusqu'il y a 10 ans, 98, quand le RCD Rwanda, le premier mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, est apparu sur la scène politique congolaise, à chaque fois que un de leurs dirigeants est visé par la CPI ou par une organisation internationale, eh bien, on enlève, on en met un autre. C'est-à-dire que Bosco Ntaganda n'est qu'une pièce de ces poupées russes. Et déjà, on en a sorti un autre. Et à chaque fois, il en sortira. Donc pour moi, Bosco Ntaganda n'est que la victime. On lui a permis de s'enrichir pendant un moment. Et n'oubliez pas qu'au comment il s'est rendu. Il est passé par les États-Unis et le Rwanda, qui tous ne sont pas signataires des accords de la CPI, vous le savez, comme moi. Et ensuite, que Moussa Kangada, aujourd'hui, la CPI dit qu'il est rwandais, qu'il arrive là, il dit qu'il est congolais, et encore une fois, en face, le gouvernement congolais est désarmé. Donc, vous comprenez, c'est juste un petit jeu pour ceux qui ont emmené le conflit et la guerre en RDC. Je répète que parmi ces gens qui ont amené la guerre en RDC, c'est bien entendu, entre autres, le président Joseph Kabila, qui aujourd'hui est incapable d'assurer la sécurité des biens et des personnes à son pays. Et je pense que la faiblesse du président Joseph Kabila justifie ce qui se passe aujourd'hui. Moussa Kangada, rappelez-vous, a été protégé depuis 5 ans par le président Joseph Kabila. Et tout le monde le sait. Donc pour les Congolais, qui sont un peu les dindons de la farce, ils ne doivent pas attendre grand-chose de la reddition de Kangada, puisque derrière Kangada, aujourd'hui encore, on continue de parler de Makenga,
justement,
qui est là.
Oui.
C'est-à-dire que ça ne change rien.
Oui, justement. Alors nous allons également aborder le sujet sur les élections en République démocratique du Congo. Aubin Minaku, président de l'Assemblée nationale congolaise, a reçu mardi 7 mai dernier les groupes politiques concernés par la désignation des membres à la CENI ainsi que les confessions religieuses de la société civile. Alors, n'est-ce pas un signe annonciateur que la CENI sera indépendante et crédible et peut regrouper chaque couche sociale et politique congolaise, Joseph Pouloulou?
Sur le principe, il n'y a rien à dire, mais il est quand même regrettable qu'on continue de parler de quotas selon qu'on est de la majorité présidentielle, de l'opposition, et ainsi de suite, ou même de la société civile dans ces conditions. Vous voyez bien qu'il sera difficile de trouver plus indépendant un représentant de l'opposition ou un représentant de la majorité. Donc, sur la forme, on peut dire que ce sera indépendant, mais l'une des garanties qui peut être demandée aujourd'hui, c'est que dans la désignation maintenant des personnalités, eh bien, on aille chercher vraiment des personnalités qui peuvent vraiment, à un moment, être vraiment indépendant vis-à-vis de ceux qui l'ont désigné. Et c'est là toute la question et toute la délicatesse de la question. Ce n'est pas que moi je mette en doute la volonté des législateurs congolais de donner au pays des responsables qui seront indépendants, mais c'est surtout la probité. Je reviens sur un terme qui n'est pas utilisé en politique, la probité de ces personnes. Voilà, qu'il faudrait vraiment juger, évaluer même. Et je pense que on a connu par le passé des personnes qui ont été mandatées, mais qui ont pris à cœur leur rôle. Et c'est là qu'il faut que la société civile ou les médias puissent jouer leur rôle de sensibilisation pour que ces personnes, une fois désignées, eh bien, sachent couper le cordon ombilical. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a eu un premier prêtre catholique, l'abbé Malumalu, qui a dirigé les élections en 2006. Et puis, on a pris un pasteur protestant pour 2011. On a vu dans les deux cas que c'est la probité de la personne qui a été mise en question, mise en cause. Donc, c'est qu'il faut. Il faut que les Congolais soient en mesure, en tout cas, de donner à leur des responsables. Des hommes politiques ou même des gens qui, une fois désignés pour une responsabilité, eh bien, sachent couper le cordon ombilical d'une part et d'autre part de respecter la charge qui leur a été confiée.
Justement.
Donc, dans tous les cas, on ne trouvera jamais de personnalité indépendante, mais c'est des personnes qui vont être indépendantes dans leur tête.
Exactement. Joseph Pouloulou, rapidement, une dernière question et sur la crise en République démocratique du Congo, justement. Est-ce que cette manière de procéder à la recomposition de la CENI en RDC aboutira nécessairement aux élections transparentes?
Non. Je répète, la question des élections transparentes en beaucoup de facteurs. Le premier facteur, c'est que la population ait confiance au processus, que la population, que ce processus sera indépendant. Et là, je dis, les autorités congolaises auront un grand rôle à jouer, d'une part, en action, que les partis politiques puissent organiser des meetings, puissent s'adresser à la population et à leurs militants. Or, jusqu'à preuve du contraire, même lors de l'élection, il a été difficile d'organiser des meetings pour que les politiques puissent préparer leurs militants à ce vote, à leurs militants à avoir confiance au processus. Donc ça doit commencer là-dessus. On mettra tout ce qu'on voudra tant que la population aura l'impression qu'ils sont tenus, qu'il n'y a pas de liberté, eh bien, on n'aura pas confiance au processus et on n'y croira pas. Dans tous les cas, je pense que ces autorités ont quelques années devant eux pour modifier la donne. Et ici, je veux même préciser quand même pour nos auditeurs que
justement, oui.
Ce qui se fait, c'est une réponse à la demande de François Hollande en octobre. Mais regardez le temps que ça prend. Donc moi, j'ai l'impression que dans ce pays, on n'a pas conscience du facteur temps. Et le facteur temps est important. Alors si on attend, comme c'était l'année dernière, en 2011, si on attend à 2 mois des élections pour que les politiques aillent s'adresser à leurs militants, eh bien là encore, c'est vraiment, les gens seront sur les nerfs et on n'y arrivera pas. Je pense qu'aujourd'hui, en même temps qu'on rend public la CNI, eh bien il faut que les chefs de parti puissent s'adresser à leurs militants et porter ce message.
Mmh, merci. Voilà. Merci beaucoup Joseph Louloulou, journaliste panafricaniste congolais, également sur Radio Manguibo FM à Paris en France. Merci d'avoir abordé des questions avec nous sur les sujets de la sécurité, les droits de l'homme et les enjeux sur les prochaines élections en République démocratique du Congo. Bonsoir et excellente soirée à toutes et à tous depuis Paris.
Merci Sylvain, à très bientôt.
Fenêtre sur l'Afrique. Interview. Analyse. Débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique. La voix des sans-voix. La voix des opprimés.
VRA, Voix de la Résistance africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Merci d'être toujours câblé sur le www.canalk.ch. Nous sommes la voix des sans-voix, la voix des opprimés. La tension a monté d'un cran la semaine dernière au camp des réfugiés ivoiriens à Vepozo, au quartier de Lomé, au Togo. Moi, les femmes du camp des réfugiés, des réfugiés ivoiriens, multiplient depuis plusieurs semaines les sorties médiatiques pour réclamer des vivres. Ces dernières se sentent abandonnées par le HCR Togo et le gouvernement togolais depuis 5 mois. Des sources proches des réfugiés font état d'un incident avec les forces de l'ordre jeudi dernier qui aurait engendré des blessés. Avant de revenir sur ce dossier, nous vous proposons un coup de gueule d'un de nos auditeurs panafricains et panafricanistes et que nous vous proposons dans quelques instants.
Fenêtre sur l'Afrique. Interview. Analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Calvaire des réfugiés ivoiriens au Togo, quelle honte! Voici plus de 2 ans qu'ils croupissent dans une misère indescriptible. Dans l'indifférence générale, ils sont parqués comme des animaux dans des camps insalubres et livrés aux caprices des fonctionnaires de l'UNHCR. Ils, ce sont les réfugiés ivoiriens qui ont cru trouver au Togo une terre d'asile susceptible de les protéger du régime sanguinaire d'Alassane Ouattara et de leur donner la possibilité de se reconstruire. Hélas, notre pays s'est montré incapable d'être à la hauteur de cette noble tâche. Pourtant, dans nos cultures, l'accueil d'un étranger fuyant un malheur est un devoir sacré. C'est un immense honneur et une grande bénédiction. On offre à l'étranger son meilleur vin de palme ou sa meilleure bière de mille. On partage le peu de nourriture que l'on a avec lui. On l'héberge dans sa meilleure case et on supporte même ses caprices qui, du reste, ne se manifesteront que s'il est mal éduqué. Voilà ce que nous enseignent nos traditions togolaises. Oh, bien sûr, personne ne s'est jamais fait aucune illusion quant à la volonté de nos dirigeants d'accueillir dignement ces réfugiés. Il s'agit justement des dirigeants togolais. Personne ne s'attendait à un élan d'humanisme de Faure Gnassingbé et de ses acolytes. Au contraire, après le sort qu'ils ont réservé à Lida Kwasi, on a tout de suite compris que le régime lèche-cul togolais était prêt à toutes les bassesses pour rentrer dans les bonnes grâces d'Alassane Ouattara et bénéficier par ce truchement de la protection des parrains panafricains de ce dernier. On savait donc que les pauvres réfugiés ivoiriens ne pouvaient en aucun cas compter sur la protection et le soutien du pouvoir togolais. Mais ce qui choque, c'est l'attitude de la population togolaise et des leaders de l'opposition. Tel Ponce Pilate, ils se lavent les mains en regardant ailleurs pendant que des réfugiés crèvent sur leur nez. Cela est d'autant plus que choquant que pendant de longues années, la Côte d'Ivoire a été un Eldorado pour les Togolais qui y immigraient pour faire fortune. Mieux, en 1993, au plus fort de la crise, les Togolais ont été très nombreux à trouver refuge au Ghana et au Bénin. Il fut un temps, on dénombrait 300 000 Togolais réfugiés dans les pays voisins. Où sont-ils, ces réfugiés togolais, pendant que les Ivoiriens crèvent à Ave Pozo? Ont-ils oublié leur propre passé? Dorment-ils tranquillement chez eux pendant que des enfants ivoiriens vont au lit le vent et le ventre vide? Ont-ils conscience du drame des femmes ivoiriennes en grève depuis le 28 février 2013 qui en sont en arrivée à retirer leurs enfants des écoles pour protester contre les conditions de vie? Combien de temps allons-nous laisser perdurer cette situation honteuse qui nous déshonore et qui salit la terre de nos aïeux? Qu'attendons-nous pour aller remettre à leur place ces petits fonctionnaires du HCR, imbus d'eux-mêmes et pleins de morgue, qui croient pouvoir tout se permettre alors qu'ils sont en territoire togolais? Ce qui se passe à Ave Pozo est scandaleux. La souffrance ne devait pas avoir de nationalité. C'est pourquoi nous lançons un appel aux leaders de l'opposition pour qu'ils expriment leur solidarité aux réfugiés ivoiriens. De grâce, qu'ils sortent de ce mutisme qui pourrait paraître comme une sorte de complicité avec le régime françafricain de Faure. N'oublions pas que la route de l'histoire tourne. Hier, c'était nous. Aujourd'hui, ce sont les Ivoiriens. Sommes-nous certains que demain ne sera pas de nouveau notre tour? C'était là le coup de gueule d'un panafricaniste togolais, Gaëtan Gbati Zoumaro, que nous remercions depuis Hollande.
Le togovie.com, AfriPresa, togoactualité.com, partenaire de fenêtre sur l'Afrique.
TogoCity.com, IciLomé.com, CVU-Togo-Diaspora.org, MO5-Togo.com, Togo-Online.co.uk sont nos sites d'information partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
VRA, Voix de la Résistance Africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
C'est le pouvoir en place qui l'a dit. Et l'opposition l'a repris. Même Pipen Taba. Ciao. Malentendu politique hier. Malentendu politique hier. Intérêt personnel déguisé. Engendre les soulèvements. Vite répliqué. Vite répliqué. Ceux qui sont au pouvoir s'y accrochent. Et on essaie pourquoi. Même si autour de tout s'écroule. Ils prétendent aimer ce peuple. Ils prétendent aimer ce peuple. Personnel déguisé, engendre les soulèvements, vite répliqué. Vite répliqué. Ceux qui sont au pouvoir s'y accrochent. Et on essaie pourquoi. Même si autour de tout s'écroule.
Vous êtes toujours câblé sur le www.canalk.ch. Eh bien, pendant 15 bonnes minutes, nous vous offrons à vos auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, amis du continent noir, amis panafricanistes, la culture africaine, le djembé, et ceci vous écoutez le groupe Gamma qui vient du Togo. Après le groupe de djembé Gamma du Togo, vous écoutez en fond sonore un artiste béninois qui fait uniquement gloire et qui valorise la tradition béninoise. Il s'agit de Anis Pépé que je vous propose d'écouter.
Jésus a dit, kakoro gbe fidiya sapusa ma use to na bi eporo gbe irome ya oya we hono to le mi si bawe kina ko to e bo be apeto e supo e kan le ro politiki me politiki atiba kawe mo ma uwo kablo mbo mbo po to atiba po na su foto a ajanu ara we wa ize bo ubo mo e nando e nse dodo nando ninu gbo jesu ise bodo ba pera o se wede nuna no ninu gba kluro ise bodo ba pera obo
mi
mo e mi na no mo na no mo e mi na no ninu gba jesu ise ba pena o gbe ro to si jeun were a ma un wo ro to e we yin mo ye do le mo we wakami wakami ndoto na sufa niwe ima uvi nubo akodomi oe ne jesu dodi ero jije abogo e na gboje ho eton me boro ye we ko to we o ma we do be to ko si fo ho si
mi mo e mi na no se te wele ma ta do na be to
me kwe ga to e se kwe ri o to ku ro e ka yi anu le a ro boro do nu o e go 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 boro do ko sun e ju 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 ana de pa boro ye we ko to yo ku ro e do be to ko si bo bo
Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos et son équipe. Romain Koudjodi, Lucien Roncalli, Fabi Kouassi, Josué Maoli et Esteban Gagnon. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K.